Tous ou Rien est une émission entièrement consacrée à explorer le monde de F. Merjanov.
Une personne dont nous ne savons rien, ou presque.
Une vie réduite à quelques lignes, des lieux, Nice et la mer Noire, une date, 1970.
Et aussi quelques mots essentiels. Macédoine, nihilisme, apiculture et rien.
Mais rien de plus.
Si nous ne savons rien de son genre, nous pouvons affirmer son appartenance aux hominines.
C'est-à-dire à la vaste famille qui va de Lucie, l'Australopithèque, à Conan le barbare, en passant par Néandertal. L'humanité actuelle est ce qu'il en reste.
Dans cette émission, nous employons le terme hominine pour parler des êtres humains. Quel que soit leur genre ou leur sexe, il nous permet de contourner les contraintes grammaticales sur le masculin et le féminin. Nous précisons seulement lorsque cela est nécessaire.
Tous les mois, l'émission Tout sur Rien propose des biographies d'hominines inconnues ou des démystifications d'idoles, des explorations géographiques insolites ou des réalités sociales singulières.
Elle tisse des liens entre F. Merjanov et sa réalité avec une bonne dose de capillotraction, l'art de tirer par les cheveux.
Elle se nourrit de toute l'absurdité du monde pour mieux le vomir.
Elle réhabilite des hominines qui comptent pour rien dans l'histoire avec un grand H.
Elle reprend à son compte ces mots d'un célèbre écrivain inconnu.
Dans nos familles, on boit dans des verres à moutarde. Nous ne sommes pas des aristocrates, nous manquons d'élégance et notre race est incertaine. Mais nous n'oublions rien.
Pridniestrie. Pays imaginaire bien réel. Non reconnu par les autres pays, tout aussi imaginaire.
Géographie protivophile.
Pridniestrie est une transcription mixte du russe Pridniestrovi, qui désigne le pays près du Niestre, et du moldavo-roumain, Transnistria, littéralement Outre-Nistrie, que la langue française rend généralement par Transnistrie, et plus rarement par Transniestrie. Le terme russe inclut les deux rives du fleuve, alors que le roumain renvoie exclusivement à la rive gauche du Niestre, à l'est. Prenons sa source dans la partie orientale des monts Carpates, dans l'ouest de l'Ukraine. À deux pas des frontières polonaises et slovaques, le fleuve s'écoule sur 1362 km pour finalement se jeter dans une grande lagune qui se déverse dans la mer Noire. Il est nommé Dniester dans les zones ukrainophones qu'il traverse et Nistru pour les roumanophones. Selon les frontières internationalement reconnues, il prend donc sa source en Ukraine, puis entre en Moldavie et redevient ukrainien à l'approche de la mer Noire. Depuis des siècles, le Niestre est une voie de communication, de commerce et de conquête pour les hominines qui s'y succèdent le long de ses rives ou qui y naviguent. Par lui transitent hominines et marchandises, savoir et armée. Il relie les grandes plaines ukrainiennes et polonaises à la mer Noire et donc au commerce international, tout autant qu'il offre aux conquérants un débouché vers l'Asie mineure, le Caucase et la mer Méditerranée.
Si au sens strict, Dniestrien désigne celles et ceux qui habitent le fleuve, poissons, crustacés, batraciens et autres végétaux aquatiques, la protivophilie rejette l'étroitesse de cette définition. Elle préfère regrouper sous ce qualificatif l'ensemble de la faune et la flore de tout le bassin du Dniestre, incluant ainsi les espèces terrestres qui vivent dans l'écosystème dniestrien. Une approche intersectionnelle dans une optique antispéciste est un outil d'analyse puissant qui permet à la protivophilie, et bien au-delà, de classer les hominines qui peuplent les abords du fleuve avec les autres espèces dans la super catégorie dite des Dniestriens. Ces hominines sont bien moins nombreux et beaucoup moins diversifiés que les autres Dniestriens. Malgré leur acharnement à mettre en valeur ce qui les différencie, il reste plus facile, même pour un regard non averti, de distinguer un oiseau d'un poisson, par exemple, tous deux Dniestriens, que deux hominines, tout aussi Dniestriens, dont l'un serait du haut Dniester et l'autre du Nistrou.
Votre attention ! Si l'on souhaite punir ceux qui vivent à nos dépens, nous devons tous travailler main dans la main et unir nos forces !
Il a raison !
Toute toutes les forces sont utiles, y compris celles des animaux comme lui. Tiens, aïe-toi. Les animaux vivent en meute. C'est de là que vient le mot émeute. À nous tous, nous formons une meute, alors en toute logique, cela nous mène à l'émeute.
Plutôt que de se renifler les orifices pour faire connaissance ou déployer leurs plus beaux apparats pour séduire, comme beaucoup d'autres Dniestriens le font, les hominines préfèrent s'en tenir à une position de défiance vis-à-vis de leurs semblables. Position qui tourne parfois à la haine et à l'affrontement. Rejetant toutes les avancées d'une zoologie protifophile, ces hominines ne se considèrent pas réellement au même niveau que les autres Dniestriens, à qui finalement ils reprochent indirectement de ne pas être des hominines comme eux. Problématique pour l'instant restée sans réponse de la part des ségrégés. Ceux-ci s'amusent à les qualifier de pridniestriens, c'est-à-dire proches des dniestriens. Et à défaut de pouvoir intervenir sur le cours de choses des hominines, les autres dniestriens assistent impuissants au spectacle. Simples victimes collatérales des guerres et survivantes des pollutions industrielles. Nous sommes encore loin de cette période apaisée que les plus optimistes attendent pour enfin organiser un grand défilé des diversités, festif et revendicatif, la Pride Dniestrien.
Les peuples se mêlent aux peuples comme les ruisseaux aux ruisseaux, les rivières aux rivières. Tôt ou tard, ils ne formeront plus qu'une seule nation, de même que toutes les eaux d'un même bassin finissent par se confondre en un seul fleuve. L'époque à laquelle tous ces courants humains se rejoindront n'est point encore venue. Races et peuplades diverses, toujours attachées à la glèbe natale, ne sont point reconnues comme sœurs. Mais elles se rapprochent de plus en plus. Chaque jour, elles s'aiment davantage et, de concert, elles commencent à regarder vers un idéal commun de justice et de liberté. Les peuples, devenus intelligents, apprendront certainement à s'associer en une fédération libre. L'humanité, jusqu'ici divisée en courants distincts, ne sera plus qu'un même fleuve et, réunis en un seul flot, nous descendrons ensemble vers la grande mer où toutes les vies vont se perdre et se renouveler. Élisée Reclus, Histoire d'un ruisseau, 1869.
En octobre 1924, plus pragmatique, le pouvoir soviétique met en place la République Autonome Sociale Soviétique Moldave, RASSM, sur la rive gauche du Bas-Nistre. Ce territoire autonome est partie intégrante de la République Socialiste Soviétique d'Ukraine, RSSU. L'entente entre Hitler et Staline permet à l'URSS de prendre pied sur la rive droite, puis de s'étendre en Bessarabie. Cette entité roumanophone est censée être l'embryon d'une future Roumanie soviétique. Profitant de l'attaque de l'URSS par l'Allemagne, hitlériste, ses alliés roumains traversent le Nistre en 1941, chassent les soviétiques et fondent le gouvernorat de Transnistrie, qui s'étend jusqu'au fleuve Boug, dans les zones roumanophones. Jusqu'en 1944, la Transnistrie roumaine est une zone de déportation dans laquelle les nouvelles autorités envoient leurs principaux opposants politiques, et toutes celles et ceux qu'elles jugent indésirables. Nombre de Juifs et de Roms de Roumanie y sont envoyés, pour être finalement exterminés. À l'issue de la Seconde Guerre mondiale, l'URSS obtient de la Roumanie les territoires entre le Prout et la rive droite du Nistre, approximativement l'ex-Bessarabie, dans lesquelles elle cale les nouvelles frontières de la République socialiste soviétique moldave, RSSM. Et y adjoint une petite partie de territoire de la rive gauche du Nistre, de l'ex-RASSM. La Moldavie soviétique devient une entité indépendante de la République socialiste soviétique d'Ukraine.
Oh,
Si la protivophilie perçoit aisément que faire mourir ou laisser mourir n'ont pas les mêmes constructions grammaticales, la nuance qui introduit une intention différente est difficile à discerner au regard des conséquences individuelles ou collectives. Appliquant cette forme d'humanisme qu'il partage avec les hitléristes, un amour des grands voyages et aux espaces exigus, les stalinistes ont déporté dans les régions de l'Est du Dniestr leurs opposants, ou supposés tels, issus des régions périphériques déjà habituellement utilisées pour bannir ou emprisonner, Caucase, Sibérie et Asie centrale. Militants politiques, criminels de droit commun ou camarades en disgrâce, contraints à vivre dans le décor militarisé des abords du Dniestr. À être une part de ce sous-prolétariat indissociable de l'univers concentrationnaire réservé aux ouvriers du gigantesque complexe militaro-industriel communiste. Contrairement à ce qu'affirmeraient les archives soviétiques, les disparitions et les morts inexpliquées ne sont pas dues à une mauvaise adaptation au climat. Ce que confirme, sur un tout autre sujet, l'ancienne responsable de la bibliothèque municipale de Nice.
Climat ? Climat ? Climat ? Non, ça me dit rien. Vie et œuvre de F. Merdjanov dans Analecte de rien.
Mêlant savamment matérialisme historique et rhétorique politique, les ethnologues soviétiques parviennent étonnamment à démontrer que les roumanophones de Moldavie sont historiquement, culturellement et linguistiquement distincts des roumanophones de Roumanie. Ces derniers sont désignés ennemis éternels et oppresseurs de toujours. Ils créent une identité moldave, forgent ses mythes et inventent son histoire. L'alphabet cyrillique est conservé pour noter la langue moldave reconnue par la République, alors que le roumain utilise l'alphabet latin. Et le russe est institué langue officielle. Ce processus de nationalisation n'est pas propre soviétique et rappelle par exemple celui enclenché autour de la langue macédonienne en Macédoine yougoslave. Dans une Moldavie très largement agricole, le pouvoir soviétique développe les industries dans les seules régions situées autour du Dniestr. Il y installe des usines dans les filières textiles ou vinicoles et met en place un secteur de l'industrie lourde, armement et mécanique, et de l'énergie. Pour ce faire, des soviétiques venus d'Ukraine ou de Russie, incités par le pouvoir en place, migrent vers cette région pour fournir la main-d'œuvre ou l'encadrement. Les équilibres linguistiques s'en trouvent perturbés. Pour défendre l'économie du Dniestr, l'armée soviétique est présente en permanence. Vers la fin des années 80, si les outre-dniestriens ne représentent qu'environ 17% des Moldaves, la région produit 25% de la richesse de la Moldavie et 90% de son énergie. Alors que l'Union soviétique est de plus en plus chancelante, des revendications nationalistes émergent dans les nombreuses républiques périphériques de l'URSS. De l'Asie centrale au Caucase, des pays baltes à l'Europe de l'Est dans le courant des années 80. En Moldavie, une loi réintroduit l'alphabet latin en 1989 et l'année suivante adopte officiellement le roumain comme langue officielle. En réaction, une république socialiste soviétique moldave du Dniestr est autoproclamée par les slavophones, russes ou ukrainiens, d'outre-Dniestr. Mais le pouvoir central soviétique ne valide pas cette initiative. Dès novembre 1990, les premiers accrochages ont lieu entre d'une part les forces armées moldaves et d'autre part des groupes armés d'outre-Dniestr épaulés par des militaires soviétiques. La proclamation de l'indépendance de la Moldavie en août 91 et son hypothétique rapprochement d'avec la Roumanie dans un futur proche incitent les hominines, outre-dniestriens, à faire sécession et proclamer en novembre à leur tour la République moldave du Dniestr. Décision largement entérinée lors du référendum organisé en décembre 91 par les nouvelles autorités.
Pridniestrie.
L'acte fondateur de ce nouvel État indépendant est sans doute de renommer le Dniester, Dnistrou, par son équivalent russe, Dniestr. Délimité à l'est par sa frontière avec l'Ukraine, à l'ouest, la Pridniestrie l'est par le Dniestr. Les négociations entre la Moldavie et le nouvel État sécessionniste restent sans effet. Et la tentative de l'armée moldave de chasser les militaires russes se solde par des combats avec les forces pridnistriennes qui, aidées par des troupes cosaques, traversent le fleuve en 1992. La ville industrielle de Bender, sur la rive occidentale, est annexée par la Pridniestrie. Finalement, ces courts combats permettent à la Pridniestrie de régler le principal point de discorde dans les négociations. Toutes les industries lui reviennent de fait. fin 1992, dans un accord sous le parrainage de la Russie, la Moldavie accepte, dans le cadre de ses frontières, d'octroyer un statut d'autonomie à la région à l'est du Dniestre, renommée Unité territoriale autonome de la rive gauche du Dniestre. Celle-ci peut accéder à l'indépendance si la Moldavie enclenche un processus de rapprochement avec la Roumanie. Mais les autorités de la Pridniestrie refusent cette proposition qui implique entre autres la restitution de la ville de Bender. Aucun pays dans le monde ne reconnaît officiellement le nouvel État et la revendication première de la Pridniestrie d'être, comme les Kaliningrad, rattachée à la Russie n'est plus soutenue par cette dernière qui préfère le statu quo. La Pridniestrie existe-t-elle vraiment ? Est une question persistante pour ses détracteurs. Précisons ici qu'en dehors de ses quelques spécificités historiques et géographiques, elle ressemble en tout point à la Moldavie, à la Russie, à la France et à l'ensemble des autres pays du monde, Macédoine comprise.
Pour le reste, la Macédoine est un pays comme les autres. Ses frontières sont une chimère, son histoire nationale une mythologie, son pouvoir politique un rapport de domination et son organisation sociale une contrainte. Comme toute identité collective, la Macédoine est une illusion. Bien sûr, la Macédoine a connu des épisodes de son histoire qu'elle ne partage pas avec les autres pays, mais cela ne change rien. Vie et œuvre de F. Merdjanov dans F. Merdjanov, Analecte de rien, Gemidi édition 2017.
Selon les trois langues officielles de cette nouvelle entité étatique, elle s'autoproclame République Moldave-Nistrienne en Moldave, République Moldave de Pridniestrovie en russe et République Moldave de Pridniestrovie en ukrainien. Par facilité de langage, ce nouveau pays est généralement nommé Transnistrie, par celles et ceux qui regardent de la rive ouest du fleuve, et Pridniestrovie, vue de la rive est, ce que la protivophilie désigne sous le terme de Pridniestrie. Malgré l'insistance de la Pridniestrie à se fédérer à la Russie, cette dernière ne donne pas suite et ne reconnaît pas officiellement le nouvel État. Dans le Caucase, l'Azerbaïdjan et la Géorgie, nouvellement indépendantes suite à l'éclatement de l'Union soviétique, sont elles aussi confrontées à des revendications autonomistes. Dans le Haut-Karabakh pour la première et en Abkhazie et en Ossétie du Sud pour la seconde. Autonomes de fait, suite à de courts conflits, ces trois entités, elles-mêmes non reconnues internationalement, sont les seules à reconnaître l'indépendance des Outre-Dniestriens. En Pridniestrie, comme cela s'est passé dans les régions géorgiennes d'Abkhazie et d'Ossétie du Sud, les militaires de l'ex-Union soviétique, encore présents dans ces territoires, se transforment de belligérants en forces d'interposition chargées du maintien de la paix et en commerçants. Dans un style humoristique proche de celui pratiqué en France sur l'héritage de la Révolution de 1789 ou la lutte de la résistance contre l'occupant, le pouvoir pridniestrien se construit une légitimité et une profondeur historique par un supposé héritage du modèle sociétal soviétique et une lutte glorieuse contre l'invasion de l'Union soviétique par les armées hitléristes et leurs hordes de collabos.
De manière assez classique, l'adoption de cette mythologie nationale est concomitante de la mise en place de tout ce qui fait le charme des États. Un appareil policier chargé de surveiller le bon déroulement d'un système politique, une monnaie dans le but de prélever des impôts et écouler les marchandises, un système judiciaire prétexte à punir toutes les formes d'opposition et un système économique permettant à celles et ceux qui n'ont presque rien de ne pas en avoir beaucoup plus. La protivophilie postule que, si ce n'est pas encore le cas, cette nouvelle mythologie nationale forgera bientôt une identité collective illusoire autour de la gastronomie et s'inventera, un comble de l'originalité, une Macédoine de légumes locales de type niçoise ou chopska. La superficie de l'État pridniestrien, de fait, est d'environ 4160 km², soit approximativement celle de l'ancien comté de Nice, lieu de naissance de F. Merdjanov, dans l'actuel département français des Alpes-Maritimes, et s'étend sur une longue bande d'une dizaine de kilomètres au plus large et d'une centaine de kilomètres de long, en suivant le cours du Dniestre. De rares territoires demeurés moldaves sont situés sur la rive est du fleuve et la Pridniestrie administre quelques zones de la rive ouest. La capitale est installée dans la ville de Tiraspol, au sud du pays. La population dominine d'Outre-Dniestre est estimée à 500 000 personnes réparties en trois tiers équivalents entre les russophones, les ukrainophones et les moldavophones. La moitié de la population vit dans les deux principales villes que sont Tiraspol et Bender, Tigina en moldave. Le moldave et l'ukrainien sont langues officielles avec le russe, mais celui-ci est prédominant dans l'administration et de fait, ne pas être russophone amène à des formes de ségrégation au quotidien. des hominines de langue polonaise vivent à l'extrême nord de la Pridniestrie et quelques autres langues bulgares et arméniennes sont présentes à Tiraspol. La frontière biscornue entre la Moldavie et la Pridniestrie s'est dessinée selon la ligne de front après les combats de 92 entre les deux pays et du choix de certaines municipalités d'être attachées à l'un plutôt qu'à l'autre. Quelques zones moldaves se trouvent enclavées là où le territoire de la Pridniestrie se résume à la largeur de la route entre deux zones. La frontière ne tient évidemment compte d'aucune réalité des hominines vivant sur place, morcelant les terres agricoles, limitant l'accès aux zones militarisées et coupant les relations familiales entre les hominines de part et d'autre de la frontière.
Salam aux faussaires, ça y est roi. Salam aux Féman Kamer. Salam à toi, Evan Tanner. Salam à toi, tueur tchécoslovaque qui refait la déco, couleur sauce tomate. Salam à toi, si tu piques louche, au centre n'y touche, pour les seins qui poussent. Salam à toi, le poc piquette. Salam à toi, le roi de la disquette. Salam à celles qui cachent leurs fesses, qui cuisinent comme dans Masterchef. Salam à Rinka du 113. Salam aux salles de boxe anglaise. Salam aussi aux frères Mumu qui musclent leur foie au lieu de faire de la muscu. Salam aux sorciers béninois. Salam à tous les Jacques Messrinois. Salam à tous mes Kaiser sosies. Salam aux braqueurs bijouterie.
Shalom, salam, salut.
J'vous passe le salam.
Shalom, salam, salut.
J'vous passe le salam.
Shalom, salam, salut.
J'vous passe le salam.
Shalom, salam, salut.
Salam aux piloteurs KX, salam aux filocheurs d'habits, salam aux mille fougas rouliottes, aux victimes du boulevard Auriol. Salam à la jet set ivoirienne, Nick Saras, la jeunesse hitlérienne. Salam à tous les camionneurs et aux pistes Johnny Walker. Salam à tous les Romains Michel, salam à ma mère, elle s'appelle Michel. Salam à tous les Free Fighters, salam à mes potes ferrailleurs. Salam aux pauvres, salam aux joies, aux groupes qui se passent la bague au watt. Salam à celles qui mettent le voile, pas à celles qui mettent les voiles. Salam aux Nadja Winter, la version arabe d'Ophelai. Salam aux voleurs de marteau piqueurs qui sonnent aux détecteurs ferraille. Salam aux actrices d'Ardamal qui passeront jamais sur la carte. Salam aussi à tous les bacas, tous les H24 qui font pas de grasse mat.
Shalom, salam, salut.
J'vous passe le salam.
Shalom, salam, salut.
J'vous passe le salam.
Shalom, salam, salut.
Passe le salam.
Shalom, salam, salut.
Passe le salam. Salam à toi le SDF qui dort dans le coffre d'une Mercedes. Salam à tous les provinciaux qui trempent leur spliff dans du vin chaud. Salam aux mécanos du dimanche pistés par la brigade des finances. Salam à toi qui pue de la gueule, qui sort de pub et qui dégueule. Salam à tous les voyageurs et aux mamies qui sourient quand elles voient un jeune. Salam aussi aux petits Kosovars, aux mères qui voient leur fils au parloir. Salam au Robert de Nireux, aux meufs de test car vous êtes mes petites russes. Salam aux mangeurs pas qu'à là-haut, et aux potes morts qui nous attendent là-haut.
Shalom, salam, salut.
J'vous passe le salam.
Shalom, salam, salut.
J'vous passe le salam.
Shalom, salam, salut.
J'vous passe le salam.
Shalom, salam, salut.
J'vous passe le salam. House de Kaira.
La Pridniestrie conserve tous les apparats du soviétisme d'antan. Le parlement se nomme toujours soviet, la statue de Lénine trône fièrement et les outils symbolisant le bon vieux temps, étoiles, fossiles et marteaux, sont maintenus. Elle en conserve aussi toute l'hypocrisie. Le système économique marchand est passé d'une forme de gestion étatisée à une approche plus libérale, en permettant aux élites politiques et aux investisseurs de s'unir, enfin, plus ouvertement, pour exploiter pleinement les infrastructures industrielles héritées de l'Union soviétique. Être moderne, pour ces néo-soviétiques, c'est avoir le droit de s'enrichir tout en s'ancrant dans un discours du paradis prolétarien. Le monde vu de Pridniestrie est franchement hostile. Si l'Ukraine ne représente pas de menace directe, le rapprochement entre la Moldavie et la Roumanie est un projet typiquement fasciste aux visées impérialistes financées par les capitalistes et leurs suppôts européens. Et la Russie est la seule amie. Depuis son accession à l'indépendance, la Pridnestrie est selon les critères internationaux un état de facto. Ce qui signifie que des autorités politiques administrent une population dans des frontières données, édictent des lois et règlements, émettent une monnaie, etc., mais qui ne sont pas reconnues officiellement par leur pair. Ces autorités se légitiment par un processus électoral présidentiel et un référendum réaffirmant la volonté populaire d'être attaché à la Russie. Pour autant, la Russie refuse de reconnaître l'indépendance et se cantonne aux accords de paix qui font de la Pridnestrie une région fédérée de la Moldavie. Elle finance une grande part de l'économie du pays et en tire parti par l'importation de produits russes et des investissements locaux. Les militaires de maintien de la paix défendent l'économie russo-pridnestrienne. La Moldavie a négocié en 2005 des autorisations de passage ferroviaire pour faire transiter via le territoire pridnestrien les marchandises. L'Union européenne, qui ne reconnaît pas plus la Pridnestrie, en importe sous l'étiquette Made in Moldova de nombreux produits textiles pour la grande distribution et des marques de luxe. Héritée de la période soviétique, l'entreprise Tyrotex est, dans le domaine du textile, dans le haut de tableau de l'espace économique européen. Des accords douaniers sont signés avec plusieurs pays de l'Union européenne et la tendance est à la mise à niveau aux standards politiques de ces institutions internationales. Shérif est l'entreprise nationale par excellence, œuvrant dans les médias, les magasins alimentaires, la distribution d'essence, le commerce de voitures, le bâtiment, le football et autres activités lucratives. Les privatisations sont un processus d'enrichissement post-soviétique, comme le sont les différents trafics illégaux que permet la situation de statu quo actuel. Globalement, depuis l'indépendance, le pouvoir politique et économique est entre les mains de nombreux ex-apparatchiks du régime soviétique. Contrairement aux habitudes soviétiques de s'accommoder discrètement du fait religieux, le nouveau pouvoir l'assume pleinement. L'Église orthodoxe est promue partenaire officiel de la distribution d'opiacés. Dans la continuité de la tradition soviétique, la Pridnestrie est adepte d'une lecture pragmatique et utilitariste des textes fondamentaux du marxisme.
Nier la religion, ce bonheur illusoire du peuple, c'est exiger son bonheur réel. Karl Marx, pour une critique de la philosophie du droit de Hegel, 1843.
Tu es religieux ?
Non. C'est une autre chose où j'ai jamais accroché. Mon père l'était.
Et maintenant, tu l'es ?
À ce moment de ma vie, je préfère croire que il y a quelque chose de mieux après, tu vois ? Quelque chose d'un peu mieux que cette merde.
Ouais, eh ben, il n'y en a pas. Il n'y a rien. Il n'y a que du noir. Et s'il y avait quelque chose, je ne peux pas croire que tu ne serais pas le bienvenu dans ce paradis, mon ami.
Eh bien, peut-être que je ferai mieux la prochaine fois.
Globalement, le niveau de vie pridnestrien est plus élevé que celui de ses voisins moldaves et ukrainiens. Tout aussi efficacement que le reste du monde, la Pridnestrie est un espace semi-clos, dans lequel celles et ceux qui produisent les richesses sont les mêmes qui en profitent le moins. Comme pendant la période soviétique, seul l'enrobage est différent. En 2018, les passeports pridnestriens ne permettent toujours pas de sortir du pays. Mais certains sont bénéficiaires de passeports moldaves, ukrainiens ou russes, qui limitent moins les déplacements entre la Pridnestrie et ses voisins. La frontière entre la Moldavie et la Pridnestrie n'est pas fermée pour les hominines qui souhaitent la traverser aux quelques postes de douane. Les seules ambassades installées dans la capitale, Tiraspol, sont celles d'Ossétie du Sud et du Nagorno-Karabakh, la Russie n'ayant maintenu qu'une représentation consulaire. L'unique ambassade de la Pridnestrie se situe à Tsinkavili, la capitale sud-Ossète. Derrière toute propagande officielle se cache toujours une réalité sociale différente. Si les générations ayant connu la période soviétique sont bercées de nostalgie pour cette époque glorieuse et que les discours patriotiques et militaristes sont insufflés dès l'école, l'arrivée d'une nouvelle génération, née après l'indépendance, la lassitude face à une situation stagnante et les difficultés économiques chamboulent légèrement les équilibres politiques. La Pridnestrie est un pays comme un autre. Une part de la population ne partage pas forcément la propagande officielle ou les politiques mises en place, mais fait avec. Une part infime s'y oppose, d'une manière ou d'une autre. La jeunesse se divise entre celles et ceux qui veulent apprendre à faire avec et les autres qui tentent, au moins temporairement, de faire contre ou sans. Comme partout à travers le monde, la modernité marchande et son imaginaire sont une réalité prégnante de ce pays. Mais aller en Pridniestrie, c'est un peu faire un selfie avec Lénine.
La Pridniestrie est un point de croisement entre l'Union européenne en expansion et les vestiges de feu l'Union soviétique. Elle est un confetti d'empire déchu. Extrait de Nicolas Righetti, Transnistrie, un pays qui n'existe pas, 2014.
Jumelage.
Formation étatique de facto, la Pridniestrie est jumelée avec différentes régions du monde. Sans que personne le reconnaisse, pas même la Pridniestrie, il existe un jumelage de facto. Nécessaire à rien ? La protivophilie est un outil puissant pour décrypter ces liens. Dans le cadre étroit des frontières de la Pridniestrie, le terme sibérien ne renvoie ni à un ethnonyme, ni à une donnée linguistique. Il désigne la progéniture née lors de l'exil sibérien des hominines qualifiés d'opposants, à l'époque, de la Moldavie soviétique et, depuis, revenus dans leur région originelle. Cette catégorie de sibériens est présente parmi les élites politiques et économiques. Sur 3 présidents élus, 2 sont des Sibériens. Les proches du premier président et son réseau d'influence sont souvent qualifiés de « clan des Sibériens ». Fort éloignée de la précédente, l'autre catégorie dite des Sibériens est celle qui désigne la 50aine de familles et leurs descendants, déportés dans les années 50 dans l'actuelle Pridniestrie par Joseph Staline et ses successeurs. Elles sont les vestiges d'un monde aujourd'hui quasiment disparu. L'histoire de ces familles plonge dans celle du banditisme de l'époque tsariste. Il existe alors de nombreuses communautés dans lesquelles s'organisent des hominines, parmi les plus pauvres, pour vivre du vol. Plus ou moins liées entre elles, souvent régionales, parfois spécialisées dans telle ou telle activité, recel, cambriolage, escroquerie, certaines établissent un code éthique auquel tous les membres doivent un respect absolu. Leur non-respect est puni de sanctions pouvant aller jusqu'à la mort. Les règles du code tiennent en quelques lignes. Refus absolu de collaborer avec la police ou l'État, de participer aux activités syndicales ou politiques, ou d'enrôler d'autres hominines dans leur rang, se consacrer entièrement à son activité de voleur, et ne pas adorer l'argent. Ces voleurs ne visent pas à l'enrichissement par le vol, mais le considèrent comme un simple travail pour vivre, comme d'autres la boulangerie ou l'apiculture. Les butins sont équitablement partagés et une partie est consacrée aux caisses de solidarité mises en place pour aider les prisonniers ou les familles endeuillées. À cela se mêlent des croyances dans les dogmes religieux de l'Église orthodoxe. Une carrière dans le vol implique, pour la plupart d'entre eux, un passage en prison. C'est même une obligation morale dont dépend toute crédibilité. Lors de son passage par la case prison, le voleur est qualifié de « ourkas », « tolard » en russe, dans l'argot des prisons. Il existe un système de codes de tatouage jouant sur les symboles par lesquels ils dessinent sur leur corps tous les événements de leur vie de manière à ne pas être déchiffrés par les autres.
Très présent parmi le sous-prolétariat urbain, tant honni par les bolchevistes, et organisé dans la plupart des prisons, les ourkas participent au soulèvement qui amène au renversement de l'empire tsariste russe en 1917. À l'arrivée de Joseph Staline, ses anciens alliés de circonstance sont envoyés en prison, rejoints des nombreux autres ourkas qui y sont déjà. Alors que la Russie révolutionnaire est partie prenante de la Seconde Guerre mondiale, peu rancunier, Staline propose une amnistie pour tous les tolards qui voudront venir grandir les rangs de l'armée rouge. Du moins, pour pour ceux qui survivront à cette guerre. Finalement, la guerre finie, le bienfaiteur du prolétariat expédie les Urkas survivants dans leurs anciennes prisons. Ayant brisé l'une des règles du code, celle qui précise qu'aucune collaboration avec les autorités n'est autorisée, ces anciens combattants sont alors qualifiés de Sukhoi par les autres Urkas. Ce terme injurieux russe peut se traduire par « chienne » ou « salope », dans un sens proche de ce que la langue française rend par « balance ». Plusieurs sont tués pour ce non-respect d'une règle fondamentale, « akab ». En 1948, une partie des balances rompt officiellement avec ce fondement des voleurs Urkas et décide qu'il n'est plus interdit d'être politicien ou militaire ni de prendre quelques postes de capot au sein de la prison. Jusqu'au début des années 50, une bataille sanglante s'engage entre les tenants des deux lignes et fait de nombreux morts dans les prisons soviétiques. Sous le regard bienveillant des autorités pénitentiaires, les volontaires collabos sortent victorieux de cette guerre des balances. La plupart des morts sont dénombrés du côté des réfractaires à tout changement du code éthique. Pour parfaire leur opération de pacification des prisons et de nettoyage social, les autorités soviétiques déportent les familles Urkas restées fidèles à l'ancien code éthique. Parmi elles, celle de l'extrême-orient russe, les Sibériens. Dans son roman autobiographique « Urkas, itinéraire d'un parfait bandit sibérien », Nikolai Lilin met en scène trois jeunes garçons, nés quelques années avant la chute de l'Union soviétique en Pridniestrie, dans des familles Urkas. Le livre est adapté en 2017 pour le cinéma, sous le titre « Le clan des gangsters ». Entre libre débrouille et code strict, entre choix personnel et pression collective, trois itinéraires du jumelage Pridnistrio-sibérien.
Par nos ancêtres, grands chasseurs et guerriers, par les grandes forêts du Nord, par le fleuve Léna et le fleuve Amour, nous te prions. Sainte Marie, Mère de Dieu, pleine de grâce, entends les prières de ton humble serviteur, pardonne-nous, honnête criminel, pour les péchés que nous sommes contraints de commettre. Aide-nous dans notre combat contre ces politico-bureaucrates assoiffés de pouvoir et leurs bras droits, les policiers, les soldats et tous ces autres diables en uniforme. Ô Mère pleine de grâce, de notre Seigneur plein de grâce, bénis nos armes, affûte nos couteaux, guide nos balles, et que soit louée notre colère afin qu'elle devienne tienne. Nous devons le respect à tous les êtres vivants, à l'exception de la police. Et de tous les gens qui possèdent le pouvoir de l'argent pour exploiter le petit peuple. Voler ces gens-là n'est pas un crime, c'est autorisé. Mais souviens-toi, il est insensé de vouloir toujours plus. Un homme ne peut posséder plus que son cœur ne peut aimer.
Inutile de chercher sur une map monde une hypothétique Sertari, même avec un puissant microscope, même doté des derniers outils quantiques qui explorent l'infiniment petit. Cela ne sert à rien. Pas plus de nihilistes que de Sertari dans la géoprotivophilie. Les bien nommés Sertariens sont un ensemble de réseaux d'influence et de micro-groupes politiques qui, pour des raisons diverses, soutiennent la cause de la Pridniestrie. Parfois nostalgiques de cette sombre période, dite « des moustaches », les micro-groupes pro-Pridniestrie balancent entre le style « petite subnasale » répandue en Allemagne et ses environs entre 1933 et 1945 et le style « grosse sur labiale » qui fit frémir d'émotion l'Union soviétique de 1924 à 1953. Ils sont pour l'un ou l'autre, parfois pour les deux, passant de l'un à l'autre, ou inversement. Seule une étude permettrait de démêler cet enchevêtrement pileux. Pour celles et ceux qui s'ennuient suffisamment pour entreprendre une exploration du monde de ces Sertariens et décrypter ce qui donne cette odeur buccale si particulière aux adeptes moustachistes. Il est nécessaire de se doter d'outils de réflexion élaborés, tels le tarot ou le marc de café, dans lesquels se lisent les mystères intimes et les peurs. Ici, ce sera dans un sac à vomi.
Comme tout le monde, le Sertarien actuel est post-moderne. La moustache ne se fait plus. Malgré les risques de repousse presque inévitables, certains optent pour l'épilation définitive de la zone surlabiale, dite aussi subnasale, d'autres pour la barbichette ou le collier. Les codes pileux et les prétextes au bonheur pour toutes et tous se sont transformés. Après la quasi-disparition des moustachistes, alibi facile pour expliquer l'horreur, les épilationnistes et autres certariens continuent de comprendre et de justifier le monde par la géopolitique dans des analyses où, pour ne citer que les plus célèbres, la guerre, l'économie, la politique ou la religion seraient les seules sources des décès directs et indirects chez les hominines. La famille et son panel de réjouissances, la prison et les tendresses policières, le suicide ou la mort accidentelle, la misère, le travail ou les caresses nasales d'une émanation polluante ne sont-elles pas à prendre au sérieux dans le décompte des morts d'avoir été vivants ? Par principe, pour la géopolitique, les hominines ne sont qu'une variable abstraite dans un schéma général d'explication du monde, où les frontières, les ressources, l'armement, l'industrie, l'idéologie ou la géographie sont des données concrètes, les seuls moteurs de ce monde merveilleux qu'il est donné de vivre aux hominines qui le subissent. La géopolitique des certariens place la Pridniestrie sur l'échiquier d'un grand jeu stratégique entre, d'une part, la Russie post-soviétique et ses alliés, et d'autre part, les États-Unis d'Amérique via l'Union européenne. Si les plus rétifs aux crèmes dépilatoires projettent dans la Pridniestrie une sorte de remake post-moderne d'un pacte hitléro-soviétique, et où d'autres certariens y voient l'épicentre d'une conflagration européenne à venir, les certariens de tout poil veulent dorénavant l'intégrer dans ce projet de Nouvelle Russie, qui inclurait les zones autonomes de l'Est de l'Ukraine, la Crimée, la Pridniestrie et la Gagaouzie, toutes unifiées à la Russie, dans un jumelage réinventé. Ces fins stratèges veulent ainsi mettre la Pridniestrie au cœur d'une géopolitique qui, comme c'est souvent le cas en de telles circonstances, va apporter paix et sérénité aux populations concernées. Depuis 2014 et le début du conflit qui oppose l'Ukraine et les indépendantistes de l'Est, la Pridniestrie souffre des difficultés d'approvisionnement à partir de la Russie. Et, avec les soubresauts des économies moldaves et ukrainiennes de 2015, la dépréciation de leur monnaie a affaibli un peu plus l'économie outre-Dniestre qui a vu ses exportations baisser. Confrontés à ces nouvelles configurations internes et externes, les politiciens de Pridniestrie se tournent vers ce choix stratégique tout en conservant un œil intéressé vers la rive ouest du Dniestre et les Pridniestriens, surtout les plus pauvres, vont vivre ce qu'ils connaissent déjà sous sa version soviétique, la contrainte économique et le pouvoir politique certarien.
Ah ah ! Toute l'avidité capitaliste imposée aux pauvres travailleurs ! Je ne t'en veux pas, petite sœur. Ton cerveau a été lessivé par de sales bourgeois qui t'a servi sans te faisant porter un petit chapeau en papier.
Monsieur, je veux juste savoir si vous voulez des frites avec ça.
Exige la révolution, bon sang ! Empare-toi des moyens de production ! Les nuggets de poulet sont à toi et à tes semblables !
Alexei...
Tes maîtres te font servir des hamburgers, mais dis-moi, quand auras-tu enfin le droit d'en manger ?
Je suis végétarienne, pauvre type.
Oh !
Hey, Lucie, c'est ça ? Joli prénom. Mon ami a une nuit difficile. On peut avoir deux menus et deux coca ?
Lien à la Pridniestrie.
Né en 1847 à Tiraspol, Nikolaï Vassiliev est un religieux soupçonné d'être Jack l'Éventreur. Après son passage par Paris en 1876, où il commet plusieurs meurtres et est interné en psychiatrie, il se rend à Londres, où il aurait perpétré des crimes qui secouent cette ville en 1888. Il est l'une des centaines de personnes soupçonnées. Par ailleurs, l'identité de Jack l'Éventreur reste un mystère.
Membre de l'AIT, proche de Bakounine, critique de Sergueï Netchaïev et ami du révolutionnaire Christo Botev, Zamfir Arboré, dit Rally, se tourne vers le socialisme et milite pour une Bessarabie, dont l'actuelle Pridniestrie, indépendante, avant de s'enthousiasmer en 1918 pour le nouveau pouvoir bolcheviste. Sa fille, Ekaterina Arbor, membre active du parti, est exécutée à Tiraspol en 1937.
Mikhaïl Fiodorovitch Larionov est un peintre rayoniste préfuturien. Né en 1881 à Tiraspol, mort en 1964 en France. Il est l'auteur en 1912 de la première œuvre rayoniste intitulée « Saucisson et macro-rayoniste ».
Né en Bessarabie en 1886 dans une famille yiddish, Samuel Schwarzbard participe à des groupes d'autodéfense juifs et à plusieurs braquages anarchistes. Près de Tiraspol, il défend en 1919 les armes à la main, l'avancée des Roumains. Poète, il assassine en 1926 à Paris Simon Peluria, un homme politique ukrainien responsable de pogroms. Défendu par le même avocat que Germaine Berton, il est acquitté en 1927.
Le groupe des anarcho-syndicalistes de Russie méridionale voit le jour en 1906 à Odessa, sous l'impulsion de Daniil Novomirski. Une section se monte à Tiraspol. Le syndicalisme prôné par ce groupe est un mélange de conflits sociaux, de violences contre les patrons et de braquages pour financer la propagande qui critique la ligne choisie par les groupes armés anarchistes qualifiés de suicidaires. Fort de plusieurs milliers de membres, il ne survit pas à la répression tsariste.
Après avoir participé à quelques groupes clandestins, anarchistes, et fait plusieurs années de prison pour des braquages, Ledzanov, 1893-1938, et son jeune frère Daniil rejoignent l'armée révolutionnaire insurrectionnelle de Nestor Makhno en 1918, dans le sud de l'Ukraine. Ledzanov devient membre du service de renseignement de l'armée makhnoviste et organise l'évasion de Roumanie de prisonniers anarchistes. Après la victoire des bolchevistes, ils sont recrutés par les Roumains pour des opérations antisoviétiques, puis par ces derniers pour lutter contre leurs opposants. Ils s'appuient sur des réseaux d'anciens partisans de Makhno en exil. Lev s'installe à Odessa et Daniil à Tiraspol. Tous deux sont assassinés par le pouvoir en 1938.
Les travaux menés par la protivophilie ne mentionnent aucun lien entre la Pridniestrie et F. Merdjanov.
Tout sur rien, le quatrième mardi du mois à 17h, le vendredi à 9h30. 104.1 à Saint-Hippolyte-du-Fort, 102.0 à La Salle, 103.3 de Ganges-Vigan.
Домов.
Glück auf. Glück auf.